Je pense que c'est très intéressant d'essayer de suivre la préparation. J'aurais pas voulu ne pas savoir où me placer, quoi faire pendant l'accouchement, avoir ma femme avoir mal et sans savoir quoi faire. Les choses ayant évolué, chez mes parents, c'était pas un sujet. C'était oui, l'AVC est une option. Là, dans notre couple, l'AVC n'est pas une option. Le plus fort impact qu'il y a eu, c'était le télétravail obligatoire, quasiment imposé tous les jours. Donc là, une plus grande proximité finalement avec mes enfants.
Être père aujourd'hui à l'heure de la crise sanitaire. Le réseau de périnatalité Auréane donne la parole au papa en période post-natale. Devenir père est une étape particulière, chargée d'intenses émotions positives, mais parfois de doutes, voire de craintes. Dans une société en pleine évolution, la place des pères change, son rôle aussi. Le père est ainsi souhaité plus présent auprès de son bébé. Dans un partage des tâches avec la mère, comme en atteste l'allongement récent à 28 jours du congé paternité. Mais qu'en est-il réellement? Et est-ce que la crise sanitaire liée à la Covid-19 a eu un impact sur le devenir père? 20 papas habitant dans les Hauts-de-France ont accepté de partager avec nous leur vécu et la réalité de leur expérience.
Je suis avec Thibaut Deslandes, qui est le papa de deux enfants, dont une petite fille qui est arrivée en juin 2021. Est-ce que vous pouvez vous présenter?
Donc Thibaut, j'ai 31 ans, j'habite à Lille depuis mars 2019. Je suis marié et avec ma femme, on a deux enfants. Donc Charlotte, qui a bientôt 3 ans, et Agathe, qui a bientôt 8 mois.
Comment vous avez vécu la grossesse de votre épouse?
Alors la grossesse, c'est vrai qu'elle elle s'est passée entre 2020, fin 2020 et début 2021. Donc c'est vrai que c'était la période des confinements successifs, des restrictions. Donc c'était la grossesse s'est bien passée. Niveau physiologique pour ma femme, il n'y a pas eu de complications. Donc ça, c'était déjà un point très positif. Après, c'est vrai que les mesures de restriction nous ont un peu privés de liberté qu'on avait justement entre avant l'arrivée de la deuxième, c'est-à-dire la grossesse de ma femme. Pour elle, c'était les derniers, c'était les moments où notre première devenait grande, qu'on pouvait commencer à la faire garder un peu plus longtemps auprès des parents, etc. Et là, c'est vrai que le confinement a un peu mis un stop là-dessus, donc on a dû rester un peu entre nous pour cette grossesse. Voilà, donc c'était le plus difficile, je dirais, c'était de ne pas pouvoir se déplacer facilement.
Et est-ce que vous avez eu du coup des symptômes particuliers pendant cette grossesse, vous en tant que papa? Est-ce que vous étiez anxieux, stressé par rapport à cette période de Covid? Est-ce que vous avez eu des troubles particuliers de sommeil, de prise de poids, des choses comme ça?
Alors non, c'est vrai que je n'ai pas été trop inquiété par rapport au Covid. D'ailleurs, on l'a tous les deux attrapé en décembre 2020, sans trop de séquelles. Donc, c'était plutôt rassurant, finalement, de l'avoir eu comme ça, sans problème. Après, il y avait toujours l'inquiétude, parce que j'avais des amis qui ont accouché dans la période aussi charnière des restrictions, et qui ont eu des problèmes pour ne pas pouvoir aller à la maternité. Donc là, c'est quelque chose, vraiment, c'était une perspective qui ne m'enchantait pas. Heureusement pour moi, ça a été possible et il y a eu très peu de limitations. Voilà.
Donc vous avez pu accompagner votre épouse dans les échographies, dans tous les examens médicaux?
Exactement. J'ai pu la suivre. Je suis allé aux échographies, voilà. Effectivement, jusqu'à la maternité, ouais.
Est-ce que c'était important pour vous d'être présent et de suivre tout ce parcours?
Alors les échographies, pour moi, oui, c'est important parce qu'il peut y avoir des bonnes nouvelles comme des mauvaises nouvelles et je trouve que c'est important de les apprendre en même temps. Surtout que voilà, c'est quelque chose qui est pris en charge par tous les employeurs. C'est une obligation légale de pouvoir s'absenter pour ces examens. Donc il me semble normal et j'en ai profité.
Et qu'est-ce que vous avez ressenti pendant ces échographies?
Il y a plusieurs étapes. Il y a la première échographie où on voit, comme le bébé est tout petit, on le voit en entier, donc c'est toujours émouvant de voir voilà, le petit être qui grandit. Et après, la deuxième échographie, qui est souvent un peu plus, où il y a un peu plus de suspense, parce que justement, on va nous annoncer le sexe de l'enfant, puisque enfin, voilà, nous, on l'a demandé. Voilà, donc bon, là, on a appris que c'était une deuxième fille, mais voilà, c'est toujours, je trouve, intéressant. Et la troisième échographie, c'est vrai, je trouve que c'est la moins voilà, intéressante, dans le sens où on n'apprend pas de nouvelles choses et c'est plutôt un suivi pour suivre le poids, la bonne croissance de l'enfant.
Est-ce que vous vous étiez préparé différemment que par rapport votre première petite fille? Est-ce que vous vous êtes documenté? Est-ce que vous avez écouté des podcasts? Est-ce que vous avez vu des vidéos sur l'accouchement, des choses comme ça, ou sur la grossesse?
Alors, on s'est beaucoup préparé pour le premier. On a tenté plusieurs préparations, puis on a trouvé quelque chose qui nous allait bien. Et ben, en fait, pour la deuxième, on a relu les quelques livres qu'on avait pris et puis on a refait une petite synthèse tous les deux, mais on n'a pas fait à nouveau une préparation aussi complète que la première, en fait. Voilà, ça faisait pas si longtemps que ça, donc on avait encore bien les éléments en tête. Donc voilà, on s'est basé surtout sur la première préparation.
Est-ce que malgré le Covid, vous avez pu assister à l'accouchement ?
Oui, tout à fait. En fait, je crois que j'avais le droit de venir, mais j'avais pas le droit de. Si je ressortais, j'avais pas le droit de revenir. Il y avait quelque chose comme ça. Donc, en fait, oui, on est allés tous les deux à la maternité. J'ai assisté à l'accouchement sur tout le long. Voilà.
Et est-ce que ça s'est passé correctement, enfin, normalement, comme vous l'aviez prévu?
L'accouchement s'est très bien passé. Il y a, comme on l'avait prévu, c'est plus après qu'il y a eu une hémorragie. Donc ça, c'est quelque chose qui nécessite l'intervention d'un certain nombre de professionnels autour de ma femme. Et pendant ce temps-là, je gardais la petite. Du coup, pendant une heure, elle était contre moi. Donc ça, c'était assez fort. Bon, c'était assez difficile aussi parce que bien sûr, elle avait faim. Et voilà, il fallait que je gère la situation. Mais voilà, à part ça, ça s'est bien passé. En tout cas, la petite n'a eu aucun problème à l'accouchement.
Comment vous avez été entouré à ce moment-là par les professionnels? Est-ce que vous avez été plutôt inclus ou exclu de l'accouchement?
Non, c'est d'ailleurs, j'ai été inclus. Les professionnels, en tout cas pendant toute la durée du travail, acceptaient que voilà, je sois le père qui aidait ma femme, c'était une sale nature, donc je l'aidais pour les ballons, les lianes, la baignoire, etc. Je participais activement. Et c'est plus après, quand il y a eu les difficultés liées post-accouchement, que là, forcément, j'ai été sorti parce que je ne suis pas un professionnel de santé habilité. Et donc, voilà, il fallait laisser les médecins parce qu'il y avait quand même une urgence. Donc, voilà, j'ai été sorti à ce moment-là, mais ça a été parfaitement normal et là-dessus, je suis très, très content du travail qu'a fait la maternité.
Et vous êtes resté combien de jours à la maternité avec votre épouse?
Alors moi, j'ai passé la nuit sur place. De toute façon, il n'y avait pas trop le choix. Ça s'est terminé à 3h du matin, donc voilà. Pendant qu'on faisait garder la petite, et après, la première, et après... je suis retourné au travail pour faire les allers-retours, les déposes à la crèche. Et je suis revenu après avec l'aîné au moment de la sortie de ma femme.
Donc vous n'avez pas bénéficié de congé paternité pour l'accouchement?
Si, mais en fait, je les ai pris, mais je ne les prends pas forcément centrés sur la date de l'accouchement, en fait. J'aime bien les décaler, en fait. Pour moi, on en avait discuté avec ma femme lors de la naissance de la première. Ce n'est pas forcément les premiers jours qui sont les plus difficiles, parce que là, le bébé, souvent, en tout cas dans notre cas, c'est là qu'il dort le mieux. C'est plutôt à partir des 3 semaines, 1 mois, que là, les nuits peuvent être plus difficiles, que l'allaitement peut avoir du mal à se mettre en place. Et donc, c'est surtout sur cette période que j'avais choisi de me rendre plus disponible vis-à-vis d'elle, d'être en congé. Et du coup, là, ça tombait bien, parce que comme c'était le 4 juin, on a pu être en congé en juillet.
D'accord. Donc, vous avez bénéficié de combien de jours de congé paternité?
Ah oui. Alors, du coup, elle est née le 4 juin. Donc, j'ai pas eu le droit
aux
28 jours. Parce que pour avoir les 28 jours, il fallait être né
après le 1er juillet.
Voilà, après le 1er juillet, ou du moins avoir une naissance prévue le 1er juillet. Voilà. Et là, elle n'était pas prématurée, c'était vraiment prévu en juin. Donc, j'ai pas eu ces jours. Après, bon, bah, c'est. Je les aurai peut-être un jour, mais en tout cas, voilà, bon, la durée légale, telle que c'était à l'époque, me convient.
Quel impact a eu le Covid, finalement, pendant le séjour à la maternité? Est-ce que vous avez pu recevoir quand même de la famille, des amis, des proches?
Alors non, effectivement, la règle, c'était uniquement la fratrie, et une seule fois. Voilà, donc en fait, la grande, Charlotte, elle est venue quasiment au moment de la sortie de sa mère. Donc voilà, elle est venue, elle s'en rappelle encore, elle nous parle, elle a pris un goûter là-bas, etc. C'est très important pour elle. Chaque fois qu'on passe en métro dans la maternité, elle nous parle de ce jour-là. Donc elle est venue qu'une fois, puis je suis reparti avec elle. Et effectivement, les proches n'ont pas pu venir. Alors, bon, le sujet des proches à la maternité, j'ai l'impression qu'il y a toujours une ambiguïté, c'est-à-dire que les proches sont très contents de venir à la maternité, mais enfin, nous, en tout cas, c'est notre approche, c'est toujours un peu difficile de recevoir toute sa famille à la maternité, parce que, voilà, on n'est pas forcément à son aise, c'est pas le cadre le plus sympathique, et puis on est fatigué, enfin, en tout cas, ma femme est fatiguée, moi, je dormais à la maison, mais... Voilà, et je sens que ça l'a soulagé aussi. Il y a cette interdiction très nette, donc c'est simple, hein. Les proches viendront nous voir quelques jours après. Et finalement, c'était pas plus mal. Donc voilà, ils n'avaient pas le droit de venir, pas le droit de visite, donc ils sont venus après.
Et est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'il faut garder, cette interdiction de visite à la maternité, pour le futur?
Enfin, ça serait compliqué de le garder parce qu'il faut une justification derrière. Mais je pense que, en tout cas, peut-être que nous, si on en a un prochain, on expliquera que voilà, on trouvait que c'était très bien de ne pas avoir de visite pour être tranquille et se reposer au mieux. Voilà. Et donc, je trouve que c'est beaucoup plus simple de recevoir à la maison. Surtout que là, ça permettait d'avoir aussi la grande, d'avoir tout le monde.
Comment s'est passé le retour à la maison ?
Bah, le retour s'est bien passé. On a eu, je pense, de la chance parce que la grande, qui avait 2 ans à ce moment-là, a bien accueilli l'arrivée de sa petite sœur. Il n'y a pas eu trop de problèmes non plus de sommeil, en tout cas pas les premiers jours du retour à la maison. Donc ça, c'était très bien. On a changé de logement pendant la grossesse de ma femme. Donc voilà, il y avait déjà la chambre qui était prête, il n'y a pas eu de problème.
Donc il n'y a pas eu de problème particulier, de pleurs, d'alimentation, comment vous réagissez par rapport à tout ça? Est-ce que vous avez participé activement?
Oui, bien sûr. Alors, des problèmes, il y avait... ma femme a choisi de l'allaiter exclusivement, en tout cas les premiers mois. Donc là, forcément, je ne pouvais pas être actif sur la phase alimentation. Par contre, c'est vrai que je me suis plus occupé de l'aîné, forcément. Les douches, l'habiller, etc. Finalement, ça s'est bien passé, ça s'est bien réparti. On a pu aussi se répartir la dépose à la crèche, les deux... sont vite allés à la crèche ensemble, donc c'était facile. Voilà. Et vis-à-vis de ma participation, je pense que c'était un peu... ça n'a pas trop changé, c'est-à-dire que avec la première, on échangeait suivant les cas, les repas, etc. C'était soit l'un, soit l'autre. Et là, avec l'arrivée de la deuxième, ça n'a pas trop changé. En fait, ce qui a été particulier, par contre, c'est que... à cette période-là, j'étais en télétravail à 100% obligatoire, quasiment. Donc forcément, c'était une présence à la maison, mais c'est parfois un peu compliqué parce que je dois travailler à la maison, mais en même temps, si j'entends que ça se passe mal, je vais avoir envie de descendre. Mais c'est pas forcément la bonne idée parce que voilà, je vais intervenir dans une situation que je connais pas. Si ça se trouve, les pleurs, c'est juste momentané. Ou à l'inverse, ça peut être compliqué pour elle. Et dans ce cas-là, on a plutôt fait où elle me demandait quand elle avait besoin d'elle. Et sinon, j'intervenais pas, quoi. Voilà, donc c'est ça qui était peut-être un peu difficile, c'était d'être... Enfin, c'est à la fois difficile d'être en 100% télétravail imposé. Il y a tout l'aspect où on ne voit pas les collègues, on avance moins, etc. Mais l'aspect positif, c'est forcément de beaucoup plus profiter de ses enfants, en tout cas de les voir beaucoup plus, de la voir grandir beaucoup plus.
Donc c'est le deuxième bébé. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être père aujourd'hui ?
Ah, c'est une question difficile. Qu'est-ce que ça signifie d'être père ? Pour moi, c'est une responsabilité partagée avec ma femme d'élever une famille, donc nos deux filles. Donc ça entraîne des responsabilités. On se rend compte quand on les élève que il y a tout un tas de points sur lesquels faire attention parce qu'ils ont une forte capacité de mimétisme, de mémoire, etc. Et donc, faut être concentré à tout instant. Et c'est essayer aussi, je pense, de reproduire un peu tous les points positifs de l'éducation que j'ai reçus de la part de mes parents, essayer de garder que le meilleur. Et puis, comment se placer face aux enjeux aujourd'hui, forcément, ils manquent pas. Pour ne pas citer les problématiques écologiques, le problème aussi de la place qu'a pris les écrans, l'informatique. Et je pensais être bien placé, je travaille dans ce domaine, mais à la fois, je vois que moi-même, je donne un exemple à ma fille où je suis très souvent sur mon téléphone, donc des enjeux comme ça, je pense. Et puis de lutter contre... la colère envers eux, les ambitions trop poussées qu'on peut avoir. Il y a beaucoup de sujets là-dessus.
Et comment vous vous êtes répartis les moments, les tâches familiales avec les deux petites ?
En fonction des horaires de travail de chacun, on s'est réparti déjà les déposes à la crèche. Donc en fait, sur un scénario normal en semaine, ça va être moi qui les dépose les deux le matin et ma femme qui va les chercher l'après-midi. Donc ça tourne bien. Et après, sur les repas, le soir, c'est souvent... on échange un peu sur qui donne à qui. Voilà, le biberon, pareil, maintenant que c'est le biberon, c'est plus facile, je peux participer. Donc, c'est aussi ça qui me fait plaisir dans l'aspect lait en poudre. Certes, si ça a moins de bienfaits, peut-être niveau de l'alimentation, mais c'est un plus pour le père, parce que moi aussi, je peux fabriquer le biberon et lui donner. Donc ça, c'est un plus. Donc là aussi, on alterne. Et après, les sorties, bien souvent, on les fait en famille. Même si on essaye de temps en temps aussi de faire une sortie qu'avec un enfant. Donc, par exemple, j'ai déjà emmené à la piscine et là aussi, je vois que ça lui a fait très plaisir parce qu'elle s'en rappelle longtemps. On essaye comme ça de se répartir, mais bien souvent, on fait les sorties à quatre.
Est-ce que vous vous sentez différent du père que vous avez eu ?
C'est pas la même configuration pour l'instant, parce que moi je suis numéro 4 sur 5, donc j'ai eu 4 frères et sœurs. Parfois je me sens proche parce que j'ai eu de la chance d'avoir un père qui avait sa propre entreprise et qui, contrairement justement à d'autres entrepreneurs, était très présent à la maison, donc avait des horaires de travail assez restreints finalement, et donc j'ai passé beaucoup de temps avec lui quand j'ai grandi. Donc là, je me sens proche. Après, j'essaye de... Je vais commencer, parce que là, elle n'a pas encore 3 ans, mais je pense pouvoir lui transmettre aussi ma passion pour le bricolage, la musique, et c'est ce qu'avait fait aussi mon père. Donc là, je pense que c'est assez proche. Après, peut-être, il y a toujours les points de l'éducation, comment on prend position sur les sujets... par exemple la fessée ou non, et les choses ayant évolué, chez mes parents c'était pas un sujet, c'était oui, la fessée est une option, là dans notre couple la fessée n'est pas une option, donc je le vois pas comme un reproche à une de mes parents, parce que je sais que c'est la société qui a évolué, je pense, forcément je me sens différent là-dessus.
Comment arrivez-vous à concilier donc votre vie familiale, intime, professionnelle, avec les deux bébés, les deux enfants ?
Ce qui est plutôt pratique, c'est que on a pu avoir un accueil à la crèche qui est tout près de chez nous et qui assure en fait les 5 jours de la semaine, voilà, des horaires 9h-17h, et donc forcément ça couvre pas toute mon activité professionnelle bien sûr, mais ça permet quand même de, voilà, soit de me laisser aller au travail sereinement, soit de télétravailler, et là du coup il n'y a pas trop de problèmes là-dessus. Par contre, ce qui se passe, c'est sûr, c'est que passé 18h, je coupe mon téléphone, je ne le prends plus pour mon activité professionnelle. Et pareil le week-end, bien sûr. Donc là, je dirais que l'arrivée des enfants m'a permis encore plus de renforcer cette déconnexion, cette séparation, comme on l'appelle, entre temps pro et temps perso. Et après, sur le temps nous deux, c'est vrai que c'est parfois plus compliqué, surtout quand la petite avait besoin de beaucoup de repas. Mais on va dire maintenant, assez vite, elle est passée, on pouvait la cocher tôt. Donc, ce qui fait que globalement, aujourd'hui, passé 19h30, on est tous les deux tranquilles. Et après, jusqu'à, probablement des réveils très matinaux, on va dire. Mais en tout cas, l'intérêt de les coucher tôt, c'est voilà, d'avoir des soirées possibles. Et quand elle commence à, quand on a suffisamment confiance pour les faire garder, bah commencer aussi nous à pouvoir sortir à nouveau. Et...
Avec donc l'expérience de ces deux bébés, ces deux enfants, quels conseils vous pourriez transmettre aux futurs papas qui vont écouter ces podcasts ?
Alors, je pense que le premier conseil, c'est avant, c'est pendant la grossesse ou même avant, c'est bien se préparer dans le sens, il y a beaucoup de préparations qui existent, préparation à l'accouchement, et certaines sont destinées qu'à la femme, parce que ça va être que vis-à-vis de son ressenti, son corps et l'accouchement lui-même. Mais nous, on a suivi une préparation plutôt où le père était très actif pour justement aider la femme dans ses les difficultés qu'elle peut avoir pendant la grossesse, la souffrance, comment l'orienter pour que ça soit plus facilement gérable, la douleur, etc. Et donc, je pense que c'est très intéressant d'essayer de suivre la préparation ou vraiment être actif. Et parce que je n'aurais pas voulu ne pas savoir où me placer, quoi faire pendant l'accouchement, avoir ma femme avoir mal et sans savoir quoi faire. Donc là, l'avoir aidé, ça m'a beaucoup... j'ai beaucoup apprécié de pouvoir l'avoir aidé pendant le travail. Donc, le premier conseil, ce serait vraiment préparer ça. Et après, de manière générale, je pense que c'est se documenter, essayer de chercher des sources d'infos. Alors, ça peut être Internet, les livres, la PMI, partout. Parce que y a bon nombre de choses qu'on entend et qui ne sont pas forcément justes. Ou des habitudes qu'avaient nos parents qui sont pas forcément donc je vais pas faire une liste ici, mais sur l'alimentation par exemple, il y a des choses qui ont évolué aujourd'hui. On introduit quasiment tous les aliments en même temps, y compris les allergènes, donc faut pas oublier que ça a un peu évolué et qu'on peut tout donner rapidement. Après, sur l'éducation, y a beaucoup d'ouvrages sur comment une éducation un peu alternative par rapport à celle dont les personnes de ma génération peuvent recevoir de leurs parents. Il y a le babysitting, par exemple. Donc il y a plein de choses. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que ma femme étant psychomotricienne, elle baigne dans ce milieu de l'éducation un peu des enfants. Elle est venue avec plein d'idées sur comment faire au mieux. Et je pense que sans elle, j'aurais clairement pas... je serais pas allé chercher toutes ces infos. Mais je pense que c'est important, parce que sinon, le risque, je pense, c'est de laisser la maman chercher seule, gérer seule, et petit à petit s'en détacher. Et ça peut être compliqué parce que... d'une part, on prendra moins part à l'éducation, et puis ça peut être difficile pour la maman d'être seule à gérer ces points-là. Voilà, donc voilà, j'essaie aussi de l'emmener chez le médecin, de m'investir au maximum pour que ce soit partagé entre les deux.
Et qu'est-ce que vous considérez qu'elle fait mieux que vous par rapport au bébé ?
Ah bah, il y a beaucoup de choses qu'elle fait mieux. C'est des choses toutes bêtes, mais la gestion des habits, par exemple, parce que j'ai pas les mêmes, j'ai pas l'expérience de voir ce qui lui taille, ce qui est la bonne taille. Et puis aussi, on n'est pas forcément des mêmes avis sur les goûts et les couleurs. Donc là, je lui laisse cette responsabilité et là, ça lui va très bien. Et puis, je pense aussi, plus généralement, mais c'est aussi lié à son travail, c'est la posture, ne pas s'agacer rapidement, parce que forcément, les enfants, souvent, on entend que les enfants, dès le plus jeune âge, nous font tourner en bourrique, nous prennent la tête, etc., mais c'est tout sauf vrai, parce que l'enfant, à 2 ans, quand il dit non, c'est surtout c'est comme un réflexe, c'est-à-dire il n'a pas pour but de nous embêter, en tout cas pas avant 3 ans. Donc il faut vraiment voir, faut avoir une posture en permanence de se dire, l'enfant il est face à un surplus d'émotions, il est en colère parce que voilà, ça déborde chez lui, mais c'est pas pour nous voir nous énerver. Et donc, là-dessus aussi, elle gère mieux que moi, même si j'y travaille sur cette posture. Et voilà. Aujourd'hui, par exemple, elle est à mi-temps, donc 2 jours par semaine, elle les garde à la maison. Et ça, je sais que c'est quelque chose que je pourrais le faire, hein, exceptionnellement, mais en tout cas, j'aurais du mal à l'assurer 2 fois par semaine pendant 6 mois. Quoi.
Et à l'inverse, qu'est-ce que vous pensez faire mieux qu'elle ?
Alors, là où je pense avoir fait mieux, c'est lors des... à l'arrivée de la première comme la deuxième, on se pose beaucoup de questions, on essaie de changer des choses. Par exemple, quand elle va se réveiller plusieurs fois la nuit, on se dit, ah, mais le biberon, il y avait 210 au lieu de 240, ou alors... Voilà, et en fait, je pense que j'arrive mieux à faire une synthèse, parce que je dis pas que je le fais de manière mathématique, mais j'essaie d'avoir une vision un peu globale sur ce qui s'est passé pendant la semaine. Et je sais que ma femme était plus dans une approche par jour ou qui du coup ça la bloquait un peu parce qu'elle essayait de changer les choses très souvent. Et moi, je pense avoir été un peu plus posé là-dessus en me disant voilà, on va essayer pendant une semaine voir si ça marche, on continue, etc. Donc là, je pense que j'ai amené un peu de rationalité dans les essais qu'on faisait pour essayer d'améliorer. Et ça, je pense que ça a aidé. Voilà, cet aspect-là. Et puis après, les aménagements de la quotidien, je pense aussi pouvoir peut-être... Oui, mieux. Enfin, après, c'est des détails, mais sur l'organisation de la maison, on a chacun nos domaines de prédilection, quoi. Voilà.
Globalement, en quoi la crise sanitaire a eu un impact sur votre paternité ?
Ouais, donc la crise, elle a eu plusieurs, de par les restrictions, elle a eu plusieurs impacts. D'abord au niveau de la grossesse, comme je le disais, sur le fait qu'on n'a pas pu du coup se déplacer ou recevoir du monde comme on voulait pendant la grossesse. Et aussi, alors peu d'impact pendant le séjour à la maternité finalement, mais après le plus fort impact qu'il y a eu, c'était, je pense, enfin me concernant, c'était le télétravail obligatoire quasiment imposé tous les jours, donc là une plus grande proximité finalement avec mes enfants, et à terme aussi c'était finalement moins d'interaction avec les proches. Parce que voilà, nos parents habitent quand même à 400 km chacun, donc c'était beaucoup plus difficile de les voir. Et encore aujourd'hui, je trouve que la deuxième, je trouve, voit peut-être moins de monde que la première a pu au même âge, a pu le faire au même âge. Donc ça, c'est pour ça que j'attends la fin de ces restrictions pour qu'elle ait à nouveau une enfance et une éducation normale là-dessus.
Vous pensez que ça l'a ralenti sur la communication avec les autres ?
Alors, je pense pas, mais c'est vrai que enfin, je vois bien le masque sur les professionnels à la crèche, ça a forcément un impact, ça peut pas ne pas en avoir. Après, pour l'instant, son développement psychomoteur est bon, donc c'est peut-être, je pense que ça pourrait ralentir si ça continue au moment où elle commencera à parler. Parce que là, forcément, si elle voit pas les lèvres et que toute la journée, ça va être compliqué. Mais j'espère que ça sera terminé d'ici là.
Cette série de podcasts a été réalisée par BM Music Prod en collaboration avec Mélissa Ferdouze, chargée de projet au sein de l'association Auréane, et le docteur Patricia Dedang, pédopsychiatre à l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise.